présenter notre prochaine intervenante. Il s'agit de Johanna Pavleski-Malingre, qui est docteure en littérature française, qualifiée en 9e et 10e section. Elle a co-organisé une journée d'études sur les personnages, figures, anti-personnages, transfiguration ou dépersonnalisation du personnage en 2016 et un colloque merveilleux, marge et marginalité dans la littérature et l'enluminure profane en France et dans les régions septentrionales, 12e, 15e siècle en 2017, dont elle a co-dirigé la publication. Et aujourd'hui, elle nous présente une communication qui s'intitule « Une fée dans l'histoire, Mélusine à la croisée des genres, chronique historique légendaire, roman historique merveilleux, fantasy historique ».
Merci pour cette présentation, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir conviée à cette journée. J'étais très contente de mon PowerPoint jusqu'à ce que je vois les choses magnifiques que tous les autres intervenants aient faites, donc je vous préviens, moi c'est blanc. J'ai un tout petit peu changé mon titre parce que donc, je vais vous parler d'un corpus dans lequel on trouve toujours, dans tous ces livres, on trouve toujours une Mélusine. Et ce sont des romans historiques ou des romans historiques merveilleux ou relevant de la fantasy historique. En tout cas, je vous propose des pistes pour différencier ces genres et dont on pourra discuter. Mélusine, fée parricide que sa mère a condamnée à se métamorphoser en femme serpent tous les samedis, mais qui peut néanmoins vivre comme une femme humaine ordinaire, tant que son époux accepte de ne jamais chercher à la voir, ni à savoir ce qu'elle fait les jours où elle se retire, pour se transformer dans le secret de son bain, est inscrite dans deux romans lignagés de la fin du Moyen-Âge, des chroniques historiques merveilleuses qui semblent préfigurer l'histoire-fiction contemporaine. Figure merveilleuse, Mélusine fut considérée par de nombreux historiens des siècles suivants comme un personnage historique, une comtesse de Lusignan que les poètes menteurs auraient muée en fée serpente. C'est peut-être en partie cette ambiguïté d'une fée dont le nom signifie merveille, mais qui est pourtant rationalisée par les historiens, qui est affublée d'une queue de serpent, mais qui est pourtant la mère du célèbre lignage de Lusignan notamment, et dont la figure littéraire trouve son origine dans des textes inclassables sur le plan générique, qui explique son inscription dans plusieurs romans contemporains mêlant à des degrés divers une composante historique et une composante merveilleuse. Mélusine apparaît ainsi notamment dans Mélusine d'Yves d'Artois, dans L'ours et Mélusine de Pierre Aunon, dans Mélusine et Philémon de Corinne de Vailly, dans Les Dames de Lusignan de Marie-Jo Chiché-Aubrin, dans L'Ange mineur de Pierre Bordage et dans les cycles de Philippa Grégory et de Mireille Calmel, de Cousine War et Le Chant des sorcières suivi de La Reine de Lumière. Les textes envisagés ici ont, pour la plupart d'entre eux, déjà reçu une étiquette générique, le plus souvent imposée par les éditeurs et parfois par les auteurs eux-mêmes. Il est intéressant de considérer cette taxonomie générique, mais elle doit être repensée au vu de l'écart entre certains projets d'écriture et leur réalisation, et afin d'essayer d'établir des critères génériques qui vont au-delà des stratégies commerciales des éditeurs. Je me propose donc d'étudier dans un premier temps les textes qui relèvent, à mon sens, du roman historique, avant d'envisager ceux qui peuvent être considérés comme des romans historiques merveilleux, pour finir par les récits s'inscrivant dans le cadre de la fantaisie historique. Il s'agira cependant moins ici d'établir des différences de degré en opérant un classement des textes les moins merveilleux aux textes les plus merveilleux que de penser des distinctions génériques à partir des modalités d'insertion des personnages merveilleux dans les textes et surtout de Mélusine, et de la construction de la référence du merveilleux dans ces romans. Donc, tout d'abord, les romans historiques. Ce sont des fictions inscrites dans l'histoire. Yves d'Artois et Pierre Aunon insistent tous deux sur le caractère fictionnel de leur récit, le premier en choisissant pour sous-titre le mot « roman », et le second en commençant ainsi son avertissement au lecteur. Le présent ouvrage est un roman. Comme tel, son ambition est de vous conter une histoire et non de vous enseigner l'histoire. Le besoin qu'il éprouve de distinguer son histoire de l'histoire souligne cependant justement l'hybridité générique du texte caractéristique d'un roman historique. Pierre Aunon et Yves d'Artois inscrivent en effet leur fable fictionnelle dans un cadre référentiel historique précis et l'intrigue même à des enjeux politiques historiques. Dans le roman d'Yves d'Artois, le personnage principal, Patrice Saint-Romand, accompagne en effet un certain Guy de Lusignan qui se dit descendre de l'illustre lignage médiéval dans l'île de Chypre, afin de servir la cause des Chypriotes qui souhaitent leur attachement à la Grèce. Il devrait y prononcer un discours dans lequel il se désisterait symboliquement de tous ses droits au profit de l'État grec, puisque les Lusignans ont été rois de Chypre. Guy sera cependant assassiné par des Turcs opposés à cette entreprise et sa fille Mélusine trouvera la mort dans cette aventure. La situation politique passée et contemporaine de Chypre fait l'objet de longs exposés historiques prononcés par Patrice et l'idéologie politique qui sous-tend le roman est claire. La voix de Patrice semble ainsi être celle de l'auteur lorsqu'il regrette que les croisades n'aient pas mis, je cite, « un point d'arrêt à la marée musulmane ». Dans le roman de Pierre Aunon, l'inscription du récit fictionnel dans l'histoire est encore plus nette. Les personnages de fiction côtoient en effet des personnages historiques et dans le cours du roman, en fait, à chaque fois qu'il y a un personnage historique qui est mentionné pour la première fois, il y a une petite astérisque qui permet de les différencier des personnages fictionnels. Je cite encore ici l'avertissement au lecteur qui est éclairant. Lorsque les uns et les autres participent à des événements historiques, nous avons tenu à en respecter les dates et les faits, même si nos personnages de fiction sont amenés à y jouer un rôle. Et il va jusqu'à citer des dialogues historiques qui se démarquent du reste parce qu'ils sont en italique. Le livre est en fait pourvu d'une dimension didactique marquée. Il y a de nombreux outils paratextuels qui sont mis à la disposition du lecteur. Un exposé historique sur la guerre de Cent Ans, en guise de prologue, des notes de bas de page qui rapportent des détails relatifs à la vie du Moyen-Âge, et une annexe historique qui permettrait de distinguer, je cite, le vrai du faux. Le héros de ce roman, Thierry de Montbrun, surnommé l'Ours, met son épée au service de Charles VI et du dauphin Charles VII, tout en éprouvant une certaine sympathie pour le duc de Bourgogne, Jean sans peur, qu'il sert pour mieux protéger le dauphin. Thierry tombe sous le charme de Mélusine, suivante d'Isabeau de Bavière, qui est l'épouse de Charles VI et la maîtresse de Jean sans peur. Mélusine, rapporte la quatrième de couverture, se dit fée et l'est peut-être. Et de fait, il y a un doute fantastique qui est ménagé, en premier lieu dans le roman, et qui aboutit en fait à une rationalisation du merveilleux. Lorsque Thierry rencontre pour la première fois celle qui se fait appeler Mélusine, elle est entièrement vêtue de vert, donc c'est une couleur qui est de façon assez topique associée à l'autre monde, et qui, pour Thierry, est la couleur des fées. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je suis allée dans l'autre sens. Voilà. Elle est entièrement vêtue de vert. Bon. Et à la fin de la description, il est rapporté que ses yeux sont curieusement semés de paillettes d'émeraude. Donc cet adverbe modalise la description et introduit un doute quant à la nature de la jeune fille. Le même adverbe est d'ailleurs employé quelques pages plus loin à propos de la toison intime de Mélusine, elle aussi de couleur verte, ce qui est plus étonnant, et qui semble constituer un dérivé humanisé de sa queue de serpent. Ce même soir, la jeune fille l'entraîne dans sa chambre où là aussi la couleur verte domine. Donc tout est vert dans sa chambre, les tabourets, la commode, les rideaux. Et évidemment, l'omniprésence de cette couleur et son caractère inhabituel sur les meubles, par exemple, donne à la pièce une dimension merveilleuse. Le cuveau qui trône dans un coin de la chambre rappelle la cuve dans laquelle Mélusine se métamorphose en femme serpent dans les romans médiévaux. Thierry a cependant l'impression d'avoir affaire à un décor et le cuveau sert à l'épouiller et non pas à une quelconque métamorphose. Le merveilleux semble ramener à des proportions humaines et burlesques. La révélation du nom de la jeune fille, Mélusine, relance cependant l'interrogation merveilleuse, parce que pendant tout ce temps-là, il ne savait pas vraiment qui elle était. Donc, à partir du moment où elle se nomme, voilà, ça relance un petit peu l'interrogation merveilleuse, d'autant plus qu'elle entreprend de montrer l'étendue de ses pouvoirs en déclinant l'identité de Thierry, sa généalogie et les buts qu'il poursuit à Paris alors qu'il ne lui a rien révélé. Mais si savoir est l'apanage des fées, comme l'affirme Mélusine, c'est aussi celui des sorcières, réplique Thierry. Et donc par ce terme sorcière, Mélusine est d'emblée rationalisée. C'est peut-être cette science particulière qui pourrait expliquer comment Mélusine parvient à se trouver à deux endroits en même temps, à Paris où Thierry l'aperçoit et à Tours où il vient de la quitter enfermée avec la reine Isabeau. C'est la sorcellerie également qui pourrait expliquer la résurrection miraculeuse d'Augustin, lui aussi au service de la reine Isabeau et qui a la tête tranchée. Mélusine elle-même donne cependant de ce miracle une explication rationnelle, puisqu'elle explique, comme vous pouvez le lire, que en fait elle a lu dans des vieux livres une façon de guérir des hommes qui avaient la tête tranchée en utilisant des herbes connues d'elle seule, et donc il a simplement eu l'impression de dormir un petit peu lourdement, mais maintenant il est guéri. L'ubiquité de la fée et ses miracles reçoit finalement effectivement une explication rationnelle, bien que hautement improbable. Mélusine était bien un être double au sens propre du terme. Le nom emprunté à la fée recouvrait l'existence de deux jumelles, Marie et Lucie. Et Isabeau, pour mieux servir ses sombres desseins, contraignait les deux jeunes femmes à n'en être qu'une aux yeux du monde. Ces deux jeunes femmes avaient deux frères également jumeaux. Et Mélusine n'a donc pas ressuscité Augustin. En fait, c'est son frère qui a pris sa place. La toison verte même reçoit une explication rationnelle et burlesque. Pour distinguer ces deux suivantes, Isabeau avait fait teindre le pubis de Lucie pour la différencier de sa sœur. Dans le roman d'Yves d'Artois de même, le doute fantastique que peuvent susciter la nature et les actions de Mélusine, fille de Guy de Lusignan, est rapidement estompé. La soi-disant hybridité de Mélusine est ici que le rouage d'une escroquerie destinée à enrichir Guy de Lusignan. Donc c'est un très long passage que j'ai retranscrit en entier, que je ne vais pas lire, mais en fait le héros rejoint Mélusine à minuit, pour la voir se baigner, et là, pendant un instant, il a un moment de doute, il croit devenir fou parce qu'il la voit avec une queue de serpent, et en fait, en s'approchant, il voit une fermeture éclair, et c'est un maillot de bain. Bon, donc, il l'assomme d'enlever son maillot de bain, en fait, ce maillot est destiné à tromper les curieux à qui Guy de Lusignan racontait ensuite qu'en échange d'une somme substantielle, il les délivrerait de la malédiction qui allait maintenant peser sur eux, puisqu'ils avaient vu sa fille le jour interdit. Bon. Et évidemment, c'est aussi une réécriture burlesque, puisque le prix de la curiosité du nouveau Raymondin qu'est Patrice, c'est d'avoir des chaussures mouillées. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que dans le roman médiéval. Dans ces textes, contrairement aux autres romans de ce corpus, Le Merveilleux, rapidement désamorcé, n'introduit aucune polyphonie au sein du discours historique, qu'il ne sert pas non plus. Chypre reste une île divisée et l'histoire de la guerre de Cent Ans se déroule comme si les héros fictifs n'y avaient pas pris part. Ce qui n'est pas le cas du Merveilleux dans les romans historiques merveilleux, dans la fantaisie historique. Le Merveilleux permet alors de donner une voix à des acteurs de l'histoire qui n'en ont pas dans l'historiographie traditionnelle, les femmes, les enfants, le peuple, les acteurs de la terreur après la Révolution française. Certains événements historiques reçoivent une nouvelle justification, un nouveau récit, et les clivages entre les parties sont déplacés et accentués. Donc, les romans historiques merveilleux. Alors, on peut tout d'abord parler de la relativité des classements génériques des éditeurs pour ces textes. Alors, Les Dames de Lusignan et le cycle. Les Dames de Lusignan et le cycle de Philippa Grégory de Cousin War ne font pas l'objet d'un classement spécifique de la part des éditeurs. Mais en revanche, le cas de Mélusine et Philémon est intéressant parce que ce cycle a d'abord été publié au Canada, aux éditions Urtebiz. Et on considère que ce roman relève de la littérature de jeunesse. La série cible un lectorat de 12 ans et plus, je cite, amateurs de romans d'aventure et fantastique. Et en France, où il a été publié à nouveau par Hachette France Loisirs, il fait partie de la large catégorie de la littérature et des romans pour adultes, et il est destiné aux amateurs d'histoire et de fantaisie. Donc la catégorisation générique semble bien dépendre des lectorats ciblés prioritairement par les maisons d'édition. L'incertitude de la catégorisation de ce cycle romanesque témoigne en tout cas de son hybridité générique et de la difficulté à le rattacher à un genre précis. Et de fait, si je pense que les romans de Marie-Jo Chiché-Aubrin et Philippa Grégory sont des romans historiques merveilleux, ça pose moins de questions. Le cycle de Corinne de Vailly se rapproche davantage de la fantaisie et je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à le classer de façon définitive. Voilà. J'avais prévu avant de parler des modalités d'intégration du merveilleux, de la construction de la référence merveilleuse, de parler des paratextes et des intentions d'auteur. Je vais un petit peu passer, mais en fait. Dans tous ces livres, il y a des bibliographies, il y a des outils paratextuels qui sont destinés aux lecteurs, des arbres généalogiques, qui permet de souligner ce qui relève de la fiction et ce qui relève de l'histoire. Et ils ont une dimension didactique assez marquée, surtout le cycle de Corinne de Valli. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a peut-être été considéré comme de la littérature de jeunesse. Donc je vais passer directement aux modalités d'insertion du merveilleux dans ses textes et à ses fonctions. Dans les livres de Philippa Grégory, des fragments de la légende de Mélusine ou des éclaircissements quant à sa nature sont rapportés par le narrateur dans des passages qui se démarquent typographiquement du reste du récit par le choix de l'italique. Et donc là, c'est pareil, j'ai fait un montage de citations où on comprend en fait que ce qui dérange Raymondin dans ces passages, c'est moins la nature monstrueuse de sa femme que sa nature féminine. En fait, il n'accepte pas entièrement sa nature de femme. Donc la nature animale et aquatique de la fée est ici la métaphore d'une féminité mystérieuse et incomprise par les hommes. La difficulté de la déesse des eaux à se mouvoir sur la terre, la douleur qu'elle ressent en dansant pour son époux, traduit la difficulté des femmes à évoluer librement dans un monde régi par les lois masculines. La figure mythique de Mélusina, perdue dans le monde des hommes, au double sens du terme, permet ainsi de penser par analogie le destin difficile des personnages historiques féminins mis en scène par Philippa Grégory, qui, en accédant aux plus hautes fonctions politiques, doivent vivre comme des hommes. Dans Mélusine et Philémon, où se trouve consigné l'ensemble de la légende de Mélusine, de façon assez fidèle au roman de Jean d'Arras, le même procédé de distinction typographique est observé, même si la légende est dans ce cycle transmise non pas directement par le narrateur, mais par la médiation des personnages qui entretiennent un lien plus ou moins distendu de filiation avec Mélusine. L'histoire de Mélusine est présentée comme un récit second, un récit enchâssé, inséré dans la fable principale, et qui semble avoir pour principale fonction d'éduquer le lecteur par l'intermédiaire du jeune Philémon, qui est l'auditeur privilégié de cette légende, puisqu'il est un descendant de Mélusine. Dans tous ces romans, le merveilleux est inséré par l'intermédiaire de personnages autres que Mélusine, ayant en partie rationalisé. Dans les Dames de Lusignan, les personnages historiques représentés constituent ainsi des incarnations temporelles partielles de la fée des Lusignan, que le peuple et les artistes auraient fondu en une seule figure féerique. C'est un roman qui est très intéressant parce que l'entreprise de l'auteur est originale. En fait, elle a déconstruit le mythe de Mélusine en mi-thème, la rencontre, l'interdit du samedi, sa transgression par exemple, et a décomposé sa figure de façon à en extraire les traits caractéristiques, par exemple les qualités maternelles et bâtisseuses, la queue de serpent. Et ensuite, elle a disséminé tous ses traits sur ses personnages de façon à proposer de la légende, une alternative narrative historique et un récit possible de l'invention d'une figure mythique inscrite dans l'histoire. Voilà. Comment finalement la figure mythique de Mélusine aurait pu se former. La queue de serpent de la fée est ainsi expliquée par la maladie de peau de Sarrasine de Lusignan, qu'on appelait la maladie du serpent, et dont elle était vraiment atteinte. L'interdit du samedi est expliqué par la religion juive de Mélise, qui est une des premières dames de Lusignan, elle par contre une dame fictionnelle, puisque l'origine historique des Lusignan n'a pas été documentée. En fait. La fée s'est incarnée non pas en une princesse hypothétique et unique, mais en une vraie femme, multiple et réelle. Le récit dans son ensemble est présenté comme la véritable histoire de Mélusine, des Lusignan et des Parthenay, qu'aurait écrite Coudrette au terme de recherches scrupuleuses avant de céder à la demande de son commanditaire et d'écrire un récit lissé, merveilleux et moins sulfureux. Il subsiste cependant une part de merveilleux dans ce récit puisque l'auteur fait référence à une fée qui serait à l'origine de la légende et qui prend au fil du récit le nom de Mélusine. Mais les faits de cette fée sont toujours apportés par la médiation de paysans ou de domestiques dans des témoignages qui sont donc présentés comme superstitieux et donc soumis à caution. Voilà. C'est le domaine de Lezine, là c'est une paysanne qui parle, ensuite c'est un valet qui dit que la fée a pleuré, donc ce sont toujours, les témoignages merveilleux sont toujours remis en question. Dans le cycle de Philippa Grégory, le merveilleux est également en partie rationalisé. Comme nous l'apprend le paratexte, c'est l'accusation de sorcellerie dont Jacquetta de Luxembourg fit effectivement l'objet qui inspira à Philippa Grégory l'idée de faire un roman sur ce personnage et de mettre en valeur le lien de ce personnage avec la fée tutélaire de la maison de Luxembourg, Mélusine. Les pratiques auxquelles se livrent Jacquetta et sa fille, la divination, la malédiction sur des noms inscrits sur des parchemins, sont documentées et la bibliographie compte un certain nombre de titres sur la sorcellerie et les pratiques de la sorcellerie au Moyen-Âge et au XVIe siècle. La rationalisation de la fée n'est cependant que partielle dans la mesure où les romans mettent moins en scène un apprentissage des savoirs de génération en génération que la révélation d'un don par laquelle la fille supplante la mère, devenant à son tour une incarnation privilégiée de Mélusine. C'est vraiment un roman aussi sur la filiation mère-fille de Mélusine au personnage historique. Dans le récit de Philippa Grégory, Mélusina ne se fait entendre que de ses descendants alors qu'ils sont sur le point de mourir, donc à l'heure où les mondes se confondent, où l'esprit humain est naturellement poussé vers la recherche d'un ailleurs. Si le merveilleux s'introduit dans l'histoire, il ne semble donc pas entièrement accepté. Il est à la marge du récit et de la vie des personnages historiques. Nous ne sommes pas dans la fantaisie. Le cas de Mélusine et Philémon est différent puisque dans ce cycle, l'irruption du merveilleux est présentée comme factuelle, donc comme en fantaisie. Et le roman s'achève sur la mention du cri de la fée qui est cette fois-ci audible par tous. Voilà, c'est la deuxième citation. Une heure plus tard, à une douzaine de lieues de là, à Lusignan, les trois cris de la fée, de la femme serpent retentirent au sommet de la tour Mélusine, que Dieu et son âme, un descendant de la fée, a trépassé. Donc, si j'ai choisi de ne pas intégrer Mélusine et Philémon au corpus des textes relevant de la fantaisie, c'est néanmoins parce qu'il ne satisfait pas, à mon sens, au second critère choisi ici pour distinguer roman historique merveilleux et fantaisie historique, c'est-à-dire la construction d'une référence interne au récit ou puisant dans un réservoir de référence propre au genre. En effet, tous les romans dont je parle ici se définissent eux-mêmes par rapport aux romans médiévaux de Jean d'Arras et Coudrette, présents comme hypothèque ou du moins comme noyau de la figure mythique de Mélusine. Et The Lady of the Rivers et The White Queen viendraient combler une lacune, puisque aucun roman n'avait été écrit sur Mélusine et les Luxembourg. Ils apparaissent seulement de façon relativement incidente dans les romans médiévaux. Les Dames de Lusignan seraient le premier manuscrit de Coudrette, retrouvé par le narrateur du récit cadre. Et Mélusine et Philémon exploitent de façon tout à fait intéressante les apories du roman de Jean d'Arras. Donc elle revient vraiment au roman de Jean d'Arras. Et par exemple, donc, tout le cycle est centré sur les anneaux que la fée a donnés à son époux et à ses fils, qui ne font l'objet d'aucun développement narratif dans le récit médiéval. L'objet de la quête de Philémon est de retrouver ses anneaux pour sauver la terre promise, le royaume de Jérusalem. Et le cycle offre ainsi en fait une suite au roman de Jean d'Arras et Coudrette qui précise que seul un chevalier issu de la lignée de Lusignan pourra sauver la terre de promission. Mais finalement, comme dans les romans médiévaux, les états latins ne peuvent être christianisés définitivement. Donc il n'y a pas d'Uchronie dans Mélusine et Philémon. Philémon, à la fin de sa vie, cache pour de bon les anneaux de la fée, et donc finalement, le cycle, après avoir offert une suite, se conclut sur les mêmes apories que les romans médiévaux, afin de respecter le cours historique des événements. Dans tous ces textes, Mélusine ne revêt pas de nouvelle identité fictionnelle. Elle est une ancêtre lignagère, elle est l'ancêtre des Lusignans, des Luxembourg, des Sassenages, et tous les récits, toutes les images qui sont mobilisées dans les textes font référence à des modèles ou à des textes existants. Par exemple, Corinne de Vailly décrit une sculpture de Mélusine qui se trouve sur une fontaine, une gravure où la fée se trouve entourée de 10 jeunes garçons. À première vue, il s'agit d'un arbre généalogique, car les bustes des jouvenceaux étaient reliés entre eux par des rubans, des entrelacs et des feuilles d'acanthe. Au centre se trouvait une bannière portant la devise « À la fée ». Sous la queue serpentine de Mélusine était dessinée une fontaine d'où la femme serpent semblait émerger et sur sa droite se trouvait un château. Et en fait, pour qui connaît l'iconographie de Mélusine, il est assez facile de retrouver les images qui ont inspiré cette description et qui sont deux frontispices d'édition incunable de l'adaptation allemande du roman de Coudrette par Turing von Ringeltinger. Donc c'est ces deux frontispices-là. Dans ces romans, donc, le lecteur n'a pas à construire un nouvel univers référentiel, il le connaît, puisque l'univers de référence est celui de l'histoire et du mythe de Mélusine depuis le Moyen-Âge. Si certains points de cet ancrage référentiel lui échappent, il peut se documenter en dehors du texte, en lisant des textes littéraires et critiques dont les références sont données par les auteurs, qui invitent ainsi le lecteur à reconstruire par lui-même cette référence exogène au roman. Et donc, ça, c'est pas du tout le cas des romans étudiés dans la partie suivante et qui sont des romans rattachés à la fantaisie historique. Donc dans cette catégorie, j'ai placé les cycles de l'Ange Mineur et de Mireille Calmel, Le Chant des Sorcières, la et la Reine de Lumière. Alors, dans ses remerciements au lecteur, Pierre Bordage précise que son roman n'est pas à proprement parler un roman historique, mais donc, évidemment, il souligne l'historicité de son récit. Et de fait, L'Ange Mineur de Pierre Bordage semble être considéré comme un texte relevant de façon exemplaire de la fantaisie historique, même si j'en ai pas trouvé de démonstration. Pour Mireille Calmel, le cas est différent parce que elle, son texte est classé par les éditions IXO dans les romans historiques et elle-même invoque le nom de Régine Pernoud, qui est une historienne médiéviste vraiment reconnue, comme un argument d'autorité en la remerciant pour tout son travail de documentaliste qui lui aurait fourni son socle historique. Elle donne une bibliographie à la fin de son cycle voilà, pour montrer qu'elle a écrit un roman historique. Mais en fait, contrairement aux bibliographies qu'on va trouver dans les romans historiques ou dans les romans historiques merveilleux, on s'aperçoit que cette bibliographie parle de tout. On trouve des livres sur les dieux égyptiens, sur des villages de France, sur le Nouveau Monde, sur le Moyen-Âge. Donc finalement, cette bibliographie est un support éclectique à l'invention d'un univers imaginaire syncrétique et non pas d'un roman historique. J'ai pris du retard, donc je vais résumer mes dernières idées. Donc les modalités d'insertion du merveilleux, donc j'avais vu que dans le roman historique merveilleux, les phénomènes merveilleux, les personnages merveilleux interviennent par le biais de médiation ou à la marge du récit, alors que là, dans la fantaisie historique, les personnages merveilleux sont ceux qui guident la quête des héros, qui permettent à la quête des héros de s'accomplir. Et puis, surtout, ce qui est propre à la fantaisie, c'est la construction d'un univers référentiel propre au récit. Dans L'Ange Mineur, donc Mélusine n'est plus une fée lignagère qu'on connaît. Chez Mireille Calmel, c'est la fille de Précide, mais c'est aussi la fille d'Apophis, le dieu serpent égyptien. Donc, la queue serpent reçoit une nouvelle justification. Et dans L'Ange Mineur, Mélusine est une déesse marine atemporelle qui incarne le bien contre le mal, la lumière lunaire contre le soleil de Mitra, la féminité contre la violence des hommes, l'esprit contre la matière. Et elle a une apparence tout à fait différente de la fée médiévale. On ne reprend pas là des images connues. Par contre, comme on est dans la fantaisie historique, il n'y a pas de xéno-encyclopédie. Ce sont des termes historiques qui existent, qui sont resémantisés par les auteurs qui détournent le langage. Et donc je trouvais que c'était particulièrement intéressant parce que ça me paraît être peut-être une caractéristique propre à la fantaisie historique d'introduire une polysémie dans le lexique historique en subvertissant le sens commun des mots, voilà. Ou en soulignant les failles du langage humain, mais sans forcément y remédier, sans forcément inventer de nouveaux mots pour le remplacer. Voilà. Donc ce sont des propositions et j'espère qu'on va pouvoir...
Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions ? Anne ? Oui.
Alors, Alors, par exemple, dans le, alors, chez Mireille Calmel, c'est le Benben, qui est une pierre sacrée du temple d'Héliopolis, qui là devient un moyen pour Priscille et le dieu Apophis de s'unir, parce qu'elle peut se métamorphoser momentanément en serpent. Enfin. Donc voilà, c'est vraiment très détourné. Dans l'enjeu mineur, c'est le terme Attar, par exemple, puisque Émile, le héros, est l'Attar de la fin des temps. Et le terme est défini par la mère d'Émile dans le roman comme faisant référence à un dieu ou à un génie indo, je ne sais plus. voilà, dans la langue perse. Donc c'est dans la langue perse. Là, c'est un petit peu différent parce que l'Attar, ça va être celui qui devrait normalement amener vraiment le règne de la lumière, sachant qu'en fait, dans ce cycle de Pierre Bordage, les lumières sont associées finalement aux ténèbres, parce que la période des lumières, c'est la période de la terreur. Voilà, il insiste vraiment sur cet aspect de la révolution. Un autre exemple dans ce texte, donc pas de resémantisation, mais de limite du langage, c'est que le héros reçoit l'aide de petites créatures qui sont comparées à des fadets ou à des farfadets. Voilà, il écrit « Leur attitude insolente rappelait les farces des fadets des légendes vendéennes », mais l'auteur renonce à inventer un nouveau mot pour désigner ces créatures qui ne peuvent être décrites que dans une analogie. Et donc je pense que, en fait, c'est parce que... alors, il y a une sorte de poétique médiévale, je trouve, qui ressemble à la poétique médiévale, qui est que le merveilleux échappe toujours complètement à une définition close dans la poétique médiévale. Et c'est aussi souligner finalement les failles de la langue humaine qui ne correspondent pas à l'imaginaire, au monde imaginaire. Enfin, au monde, à l'autre monde qui est mis en scène dans le roman.
Je me rappelle très bien avoir modélisé une table ronde sur le roman historique avec Mireille Calmel. Donc j'ai eu l'occasion de dire c'est vrai que c'est l'exemple même qui m'avait frappé de la porosité des frontières du roman historique. Je me suis dit si c'est du roman historique, tout est possible.
Mais c'est vrai que, en fait, dans le paratexte et dans le classement éditorial, c'est vraiment un roman historique. Dans ma thèse, j'ai un petit peu parlé de ce cycle, mais dans une autre perspective, et je n'avais pas du tout questionné le genre. Donc j'avais dit, voilà, roman historique. Mais en fait, pour moi, du coup, c'était un roman historique raté, parce qu'il n'y a plus grand-chose d'historique, hein. Et c'est Michel Galli, pendant ma soutenance, qui m'a dit « Mais en fait, c'est peut-être de la fantaisie, ce texte. » Donc voilà, en fait, je lui dois... je souligne ma dette à l'égard de Michel Galli.
Non, parce que c'est un exemple extrême, mais dans cette histoire de réécriture, et c'est souvent le roman historique français écrit par des femmes avec la Chambre des Dames. À partir de la Chambre des Dames, il y a eu souvent ces romans-là, alors qu'on lit peu quand on est dans le temps imaginaire, ça a l'air vraiment à une frontière très ténue avec pas tant de la fantaisie historique que de la romance de fantaisie historique. Peut-être que ça a pu aussi paraître, il y a des collections spécialisées dans les harlequins d'un cadre historique. On est complètement focalisé sur une histoire d'amour et puis un certain nombre d'éléments surnaturels. Donc il y a là un sous-genre très hybride dont je pense que le gros des lecteurs, c'est des lecteurs de romance.
Oui, mais par
rapport à. C'est un genre qui me semble aussi devoir beaucoup à cette tradition-là.
Tout à fait. Mais j'avais lu un autre cycle de Mireille Calmel pour pouvoir différencier, et dans celui-là, il y a vraiment une nouvelle cosmogonie, du coup, ce qui rapproche vraiment de la fantaisie par rapport à ses autres textes. Il y a vraiment une nouvelle cosmogonie, mais par contre, en fait, qui fonctionne très mal, parce qu'elle est amendée tout au long du cycle. Les personnages changent l'histoire du monde, Et donc finalement, il y a une sorte de mise en abîme du lecteur à plusieurs reprises. Il y a des personnages qui sont des images de lecteurs, des lecteurs inscrits, qui disent « Ah non, mais là, je comprends plus rien. » Et bah oui, et en fait, c'est vrai qu'on arrête d'essayer d'y croire à certains moments. Ça correspond à des moments où il y a effectivement une suspension de l'incrédulité, de la crédulité. On ne veut plus accepter de croire à tout ça parce que voilà, ça a trop souvent recommencé et puis c'est un syncrétisme tellement débridé qu'au bout d'un moment on s'y retrouve plus en fait.
Merci. Merci beaucoup. Une ultime petite question, oui.
Même si évidemment il a écrit vraiment ce roman de science-fiction, il pense plus comme un auteur de fantasy. Et le cas de l'Ange mineur est particulier parce qu'il se trouve à la croisée des chemins en fait par rapport à son parcours d'écrivain. C'est un roman d'abord, Pierre, c'est un Vendéen, il voulait véritablement revenir sur l'histoire de la Vendée, donc écrire un vrai roman historique. D'ailleurs, la date, hein, l'Ange mineur 1798, montre bien qu'il y a un fort ancrage historique. Revenir évidemment sur la période de la Terreur. Et en même temps, Pierre ne peut pas s'empêcher, bien évidemment, d'écrire un roman de fantasy, de faire des références, bien sûr, au folklore et en même temps au merveilleux. Donc on a vraiment, pour lui, c'est un enjeu mineur, c'est un roman qu'il aime bien parce qu'il a fait en même temps un énorme travail, finalement, de recherche historique. Il nous avait dit notamment qu'il avait beaucoup travaillé sur le langage, en fait, les termes de lexique utilisés à l'époque. Donc il voulait vraiment un ancrage historique, mais en même temps, évidemment, rajouter du folklore et des conditions naturelles pour s'inscrire quand même dans la fantaisie. Et donc, oui, je pense qu'on est vraiment sur un roman écrit qui pourra se mettre à la question.
Mais il va s'inspirer du folklore vendéen, mais changer quand même un certain nombre de choses pour que ça soit vraiment personnel. Il y a toute une partie de ce roman qui est écrit en patois vendéen, parce que les personnages s'expriment en patois vendéen, et donc on peut lire finalement cette langue de deux façons, enfin on peut la recevoir de deux façons en tant que lecteur, ou comme une langue qui renforce l'ancrage historique, parce que je pense que c'est vraiment documenté sur cette langue dont il a hérité ses racines vendéennes, et en même temps, comme c'est une langue inhabituelle pour le lecteur, ça donne une certaine atmosphère merveilleuse, finalement, parce que ce n'est pas une nouvelle langue, mais c'est une langue autre, quand même.
Merci beaucoup. On va donc passer...
Merci beaucoup. Je ne sais pas si on réapplaudit, je ne sais plus ce qu'on faisait la dernière fois. Non, on ne réapplaudit pas, d'accord.
Merci, Johanna.